Alors, le premier, c'est un petit roman d'Alain Leroux qui s'appelle Boulmiche, 3 mai 68, 17h58. Et c'est édité par les éditions Delirium. Avertissement. Vous voulez mon avis? Ce bouquin est un brûlot. L'avocat de l'éditeur était habituellement de bons conseils. Aussi, 3 mois plus tard, la somme de 948 pages s'était métamorphosée en un petit ouvrage labellisé roman et signé d'un nom d'emprunt, afin que personne ne vienne y chercher noise. S'il n'avait été édulcoré, enjolivé et parfois même volontairement ridiculisé, le récit originel aurait été explosif. Le roman est son phoné. Telle est la genèse du texte que vous allez découvrir. Lecteur, vous voilà prévenu. Toutes les identités seront maquillées, les visages floutés. Vous ne reconnaîtrez personne, à l'exception notable d'un personnage central dont le nom apparaîtra en toutes lettres, avec ses 2 T et ses 2 R. Mais lui nous a déjà quittés. Trop tôt ou très tard, selon le souvenir que l'on a gardé de lui. Et sa légende n'a rien à craindre d'un livre de poche. Bien qu'écrit dans un style volontairement quelconque afin de demeurer accessible au plus grand nombre, le roman qui vient s'appuie sur une thèse particulièrement absconse de philosophie, soutenue en Sorbonne le 7 juillet 1993 et portant le titre en lui-même déjà incompréhensible, Épistémologie de la science historique, de l'essentialité des micro-événements fortuits sur le cours de l'histoire.
Tu nous en diras tant, peux-tu nous expliquer?
Ben, en fait, j'ai lu des extraits de ce qui s'appelle Avertissement, qui est les 2, 3 premières pages, non, les 6, 8, 10 premières pages du bouquin, qui se présente donc comme un roman qui n'en est pas vraiment un, mais comme un récit de faits avérés au soutien d'une thèse qui va être développée plus tard, mais qu'on a appelé roman pour ne pas avoir d'ennui avec la justice. C'est la thèse du papillon, mais un peu plus développée. Donc l'idée de qu'un battement d'ailes de papillon à un bout de la Terre peut provoquer des événements en chaîne qui vont avoir des conséquences à l'autre bout. Donc c'est l'histoire de l'aile du papillon qui provoque un tsunami à l'autre bout du monde. Et bien là, c'est pareil, c'est de dire en fait tous les grands événements qu'on a vécus, donc là on a compris que ça parle de mai 68, sont en fait le résultat d'un pur hasard, d'un événement microscopique et involontaire, qui s'est produit à un moment donné et qui, par un enchaînement de circonstances, a provoqué donc les émeutes de mai 68, notamment en France. Boulmiche, boulevard Saint-Michel. C'est l'histoire de 2 personnages centraux. L'un qui est un peu un étudiant éternel, parce que il n'est pas très jeune, franchement, il n'a plus l'âge d'être étudiant. Mais il est toujours en train de travailler à sa thèse, qui s'appelle donc, de ce titre imprononçable, Épistémologie de la science historique, etc. Thèse dans laquelle il va dire que, en fait, les événements importants de l'histoire sont provoqués par des micro-événements involontaires de leurs auteurs. Donc ça, c'est sa thèse. Lors d'une de ses recherches, il tombe sur une archive concernant un événement qui s'est produit sur le Boul'Miche, donc le 3 mai 68 à 17h58, et qui est complètement improbable, avec un personnage lui-même improbable, et il va se mettre à chercher et à fouiller dans la vie de ce personnage, qui est en fait un loser total, et il va en arriver à décider que c'est ça qui a provoqué mai 68. Alors le début, bon moi c'est un peu cocasse, mais l'idée de base, mais après ce qui est chouette c'est que l'auteur a une verve incroyable, il s'exprime un peu avec une forme d'humour et d'argot un peu daté mais très drôle. Il avait déjà écrit 2 ou 3 romans chez ce même éditeur qui sont tous très drôles, l'un qui s'appelle La chute de Toulon notamment, qui est absolument à mourir de rire, où il part d'une prédiction de Nostradamus pour en arriver à l'élection du Front National il y a quelques années à la mairie, enfin voilà. Et il en avait fait un autre aussi qui s'appelait de Vaugine à Cucuron, une histoire de un peu de notable, policière. C'est un auteur cocasse. C'est pas forcément de la très grande littérature, mais c'est super bien troussé, c'est décalé, c'est réjouissant. Et on n'a pas beaucoup d'occasions de se réjouir en ce moment. Et c'est rare que les livres drôles soient en même temps bien écrits. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'il a une bonne idée au départ et il la tient jusqu'au bout. Ça marche jusqu'au bout, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a une bonne idée de départ, puis ça tombe un peu au milieu. Lui, il est vraiment fort pour ça. Je ne peux que vous recommander ce petit bouquin d'Alain Leroux qui s'appelle Boul'Miche, 3 mai 68, 17h58, paru chez Delirium.
Second coup de cœur.
Alors, second coup de cœur, c'est un roman américain d'une auteure que j'aime beaucoup, une autrice que j'aime beaucoup, Anne Patchett. Ça s'appelle La Maison des Hollandais et c'est sorti chez Actes Sud il y a très peu de temps, je crois que c'était janvier. Voilà, en janvier. Alors, Anne Patchett, elle est moins connue que des auteurs comme John Irving ou Paul Auster. Ou on pourrait presque la comparer, même si c'est pas la même forme d'écriture. De toute façon, John Irving et Paul Auster, ils écrivent pas pareil. Et elle non plus, elle écrit pas pareil que ni l'un ni l'autre. Mais c'est le côté roman américain. Roman complet américain, saga familiale, plongée dans des vies qui sont décrites de telle sorte qu'on a vraiment l'impression d'accompagner ces personnages comme des amis pendant toute l'histoire qui nous est racontée. Alors cette histoire, ça part d'une maison. La maison des Hollandais, c'est une maison de maître, une maison de riche qui a été construite par des Hollandais qui ont fait fortune aux États-Unis, à Philadelphie. Et puis, on s'occupera pas trop de leur vie à eux, parce que l'histoire, elle concerne les acquéreurs de cette maison une fois qu'eux n'y sont plus et qu'ils sont morts depuis longtemps. Une famille, papa, maman et les deux enfants, plutôt heureuse mais pas riche. Et un jour, le père, qui est en train de faire fortune peu à peu, mais il est au tout début, va acheter cette maison et en faire la surprise à sa femme et s'y installer avec sa femme et ses deux enfants. Mais quand il achète cette maison, elle est dans son jus, c'est-à-dire que les Hollandais l'ont quittée un jour sans rien emporter. Il y a la déco, les meubles, les tableaux, dont celui qui est sur la couverture du livre qui va jouer un rôle important dans l'histoire, leurs habits, leur vaisselle, tout est là. Et en fait, ils vont se mettre dans ce décor, sauf qu'on va très vite apprendre que la mère ne supporte pas cette maison et qu'elle a abandonné la famille. Et très vite aussi, là je ne dévoile rien, je ne suis pas en train de spoiler l'histoire, très vite une autre femme va prendre sa place et ça va être le début d'une histoire compliquée et douloureuse. Et elle est racontée par le fils. La fille aînée a connu sa mère, le fils à peine. Elle est partie quand il avait 3 ans. Donc tous ses souvenirs à lui sont dans cette maison avec le trio, papa, grande sœur et moi, et la grande sœur étant hyper protectrice pour lui. Jusqu'au jour où Andrea débarque et que ça va mal se passer. Et donc c'est chapitre 2, donc je ne dévoile vraiment rien. Et je vais vous lire le début de ce chapitre 2. Après sa première apparition à la maison des Hollandais, Andrea a traîné comme un virus. Dès qu'on était sûr de l'avoir vue pour la dernière fois et que son nom n'avait plus été prononcé depuis des mois, voilà qu'elle réapparaissait à la table du dîner, d'abord refroidie par son absence, puis se réchauffant lentement avec le temps. Andrea, au summum de sa chaleur, avait pour unique sujet de conversation la maison. Elle discutait interminablement du moindre détail d'une moulure ou calculait la hauteur exacte des plafonds comme si nous venions de découvrir leur existence. « Ça s'appelle moulure en ove », me disait-elle en levant le doigt pour les désigner. Quand sa présence devenait vraiment insupportable, elle disparaissait à nouveau, et une vague de soulagement déferlait sur Maeve et moi, et pensait-on notre père, dans le sillage de son glorieux silence. Je me souviens du dimanche où, de retour de la messe, on l'a trouvée assise sur l'une des chaises en fer blanc au bord de la piscine, à moins que ce ne soit Maeve qui l'ait trouvée. Maeve avait traversé la bibliothèque et l'avait aperçue par hasard par la fenêtre. Elle n'a pas appelé notre père, comme moi j'aurais fait, se contentant de sortir dans le jardin, par la porte de la cuisine. « Madame Smith ?» a dit Maeve en mettant sa main en visière sur ses yeux. On l'a appelée Madame Smith jusqu'à leur mariage, puisque personne ne nous avait proposé de faire autrement. Après leur mariage, je suis sûre qu'elle aurait préféré qu'on l'appelle Madame Conroy, mais ça aurait seulement intensifié le malaise, vu que Maeve et moi étions aussi des Conroy. À partir de ce moment-là, on comprend mieux pourquoi tous les débuts de chapitre, ou presque, on voit les deux enfants, devenus adultes, se garer en face de la maison et la regarder. Parce qu'on se doute bien que là, Andrea, elle ne va pas leur faire du bien. Voilà, c'était La Maison des Hollandais de Anne Patchett, roman traduit de l'anglais par Hélène Frappa, qui est également écrivaine, chez Actes Sud.
Un petit point au premier confinement, on en a fait un autre point au second. Où en est-on
avant le troisième?
Dans
c'est
le
ça que tu allais dire
des clients, tu peux lire peut-être un peu l'avenir. m'avait confié lors du second confinement, lorsque les libraires ont poussé un petit coup de gueule, on va dire, que finalement ça a été considéré le livre comme un produit essentiel.
Oui, enfin pas au point qu'on puisse rester ouvert normalement, mais suffisamment pour qu'on ait le droit de faire du clic et cueillette.
Les clients revenaient, ouais. Et revenaient même presque massivement, parce que oui. C'est un lieu où on peut échanger tout simplement.
Tout à
on
fait.
En est où, là,
ça reste vrai. Ça reste vrai. Par contre, je sens depuis, depuis la reprise de janvier, comme si on s'était un peu illusionné sur le fait que fin d'année égale nouvelle année égale ça y est, c'est fini, on peut revivre normalement. Un peu, il y a eu un peu une chute de morale, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des clients, les clients qu'on voit régulièrement, ils sont moins enjoués qu'il y a quelque temps. Et tout le monde en a marre, en fait. Tout le monde en a marre. Par contre, pour nous, du point de vue strictement librairie et vente, c'est toujours au top. Mais on sent que l'ambiance est en train de devenir de plus en plus morose et que les gens n'en peuvent plus. Et justement, c'est aussi pour ça qu'ils viennent chez nous, parce que c'est le seul endroit où ils peuvent se croiser avec des copains et discuter deux minutes quand il n'y a pas trop de monde et qu'on n'est pas obligé de leur dire « faut que vous sortiez pour laisser la place au suivant », parce que on limite toujours à 10 personnes et on continue de faire attention et de demander le masque. Mais ça commence à tirer, là. On le sent pour tout le monde. C'est pas que en librairie, hein. Nous, on les voit parce qu'on a la chance de pouvoir voir du monde ici et que pour nous, ça fait du bien de pouvoir voir des gens et de parler avec eux. Mais ça devient dur, là. Faudrait pas qu'ils nous en rajoutent une couche, quoi.
Allez, le mot de la fin, je te propose, on garde le lien, on lâche rien.
Voilà, ça me va. Oui, et malgré ce satané virus, dont on arrive finalement à se préserver quand même assez bien avec les gestes barrières. Après, il y a d'autres choses derrière qui sont un peu plus graves et qui vont peut-être s'installer.
C'était le mot de la fin.
Voilà.